s'articule aussi chez Baylor, dont nous sommes très fiers. Le dogme de l'Assomption de Marie, 1950, et notre. Notre bénédiction, le Saint-Père, voilà, c'est son père à la même date. Voilà, donc on l'a fêté, en fait, chaque année, en fait, notre anniversaire, celui de l'Assomption de la Vierge Marie, de sa manifestation dogmatique dans l'Église. Et puis voilà. Et d'ailleurs, une fois, vous nous aviez offert le voyage pour le 50e anniversaire. Oh. Ouais, ouais. 50e anniversaire à l'an 2000, et nous étions allés là-bas, à Éphèse, et on a fait un petit travail là-bas pour le 20 décembre. Et on a cherché et on a découvert l'endroit précis où se trouve la tombe de l'Assomption de la Vierge, d'où elle est sortie. Voilà, parce que cet endroit-là, d'après officiellement encore aujourd'hui, n'a pas été retrouvé. Mais avec mon frère, on a
il faudrait aller tous à Éphèse et vous nous feriez
voir. Oui, tout à fait.
Et la basilique de Saint-Jean.
Ah oui, ça c'est en bas, c'est à 8-10 km de là.
Oui,
ouais. Alors à chaque fois que je fête l'anniversaire de mon frère jumeau, je pense à ça, je pense qu'il y a cette espèce de triple conjonction avec la manifestation sur la terre de l'Assomption de la Vierge Marie. Et c'était à 50 ans, exactement. On a 50 ans. Voilà, donc c'est pour ça. Quand on est arrivé à Éphèse, on dit à Sainte Vierge, on fête tous les trois notre 50e anniversaire demain. Alors, vous nous montrez où est-ce que vous étiez quand vous êtes monté dans l'Assomption. Voilà.
Oui, parce qu'on
dit que
c'était à Jérusalem, non?
Et ça a été pas du tout. C'est dans Eusèbe de Césarée. Et Saint Jean Climac, je crois. Voilà, non. Elle a accompagné. Elle était à Jérusalem pour le premier concile de Jérusalem, dont parlent les Actes des Apôtres, oui. D'ailleurs. Et il y avait forcément Jacques, Jean, Pierre, etc. Et elle a fait. Comme l'indique d'ailleurs un des pères de l'Église, je crois que c'est Saint Jean Climac. Elle a fait le chemin de croix, elle a refait le Golgotha, le Gabata, voilà. Et là, elle est tombée la Sainte Vierge est tombée de. Ils ont cru qu'elle était morte. Ils ont cru qu'elle était morte, et elle est tombée en dormition, si je puis dire. Hein. D'accord. Alors du coup, vite, ils ont fait un tombeau. Mais le troisième jour, elle est sortie de sa dormition. Elle est repartie, elle s'est relevée.
Elle avait quel âge à peu près? Une cinquantaine ou non?
Là, quand c'est Jérusalem, c'était... 13, 14 ans après, à peu près, après la mort de Jésus. Donc ça devait être l'an 44, quelque chose comme ça. 47, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc elle est repartie ensuite à Éphèse, avec Saint Jean, et elle a connu son ultime dormition et son ultime mise en tombeau. Et c'est bien qu'il y a une église de la dormition à Jérusalem à cause de ça. La dormition, mais pas de tombeau. Et pour cause, puisque j'avais été mis dans un tombeau. Voilà, et on connaît ces détails par grâce à des graphiques, je veux dire des icônes, des liturgies, etc.
Des souvenirs.
Parce que les liturgies, on vit de fleurie. C'était pas dogmatique, mais c'était pas dans l'évangile, mais voilà. Et puis, plus récemment, par des saints qui ont visionné ça miraculeusement, comme Sainte Anne-Catherine et Émeric, voilà. Donc, avec des... que du coup, comme Jean-Paul de la canaliser, on considère que c'est elle qui a eu les visions les plus précises, qui n'est parfaitement exacte d'ailleurs. Voilà. C'est grâce à elle qu'on a retrouvé exactement le tombeau de Saint-Pierre. Le pape Pie XII, sous les écrits de Catherine Émeric, a fait faire immédiatement les travaux en dessous du baldaquin de Saint-Pierre de Rome. Et il est tombé au centimètre près à l'endroit où Anne-Catherine Émeric l'a indiqué. Mais ça a été pareil pour la maison d'Éphèse. Il a été retrouvé immédiatement.
Et
les deux tiers des découvertes archéologiques chrétiennes viennent d'Anne-Catherine Émeric, en fait.
Thérèse Lemal aussi avait décrit pas mal de choses.
Alors, c'est autre chose. Elle décrivait la souffrance, les détails de la passion.
Thérèse Lemal, elle pouvait décrire ce que portait Pierre comme vêtements, la couleur, tout.
Mais elles étaient toutes de la même époque, hein. Il y a eu dans les mêmes. Souvent c'est comme ça dans l'Église. Il y a par exemple pendant 50 ans, on va avoir exactement le même miracle partout dans 50, 60, 200 endroits. Voilà. Et par exemple à un moment donné, je me rappelle, il y avait des icônes qui suintaient de l'huile sainte et qui sentaient des odeurs incroyables. Ça, je me rappelle très très bien, ça c'était entre 1980 et 1999. Alors, il y en avait partout.
C'est un entier aussi dans le troisième secret. Et il a pris un huissier pour être le troisième secret. C'est un film que tout le monde devrait voir. Ils avaient pris un huissier qui a... Voilà, ils ont fait faire l'analyse de l'huile, etc.
Voilà, donc ça c'était... Il y en a eu des centaines et des centaines, moi, des icônes qui ont suinté de l'huile, qui sentaient des odeurs inouïes, j'en ai vu 70 à peu près. Et c'était dans la même période.
C'est
dans la même époque. Il y en avait chez Françoise, il y en avait en Grèce, il y en avait en Europe, il y en avait aux États-Unis, il y en avait à Toulouse.
À Toulouse,
bien sûr. Mais même aussi dans mon petit groupe de Montpellier, hein, de Marie-Reine, une fois, chacun avait amené son icône de Marie Porte du Ciel. On avait fait une nuit de prière et le matin, il y en avait 47 icônes qui suintaient de l'huile.
Mais on n'aurait pas tout ça, on croirait quand même.
Mais c'est pas ça, c'est pas.
Rien que les textes.
C'est pas à cause de ça que je parle de ça, c'est pas pour dire qu'il y a des miracles, ça n'a rien à voir.
Oui.
C'est pas du tout à cause de ça, c'est pour dire que quand il y a un type de miracle, il se produit ailleurs de la même manière. Et il s'était pas produit avant, il se produira pas après. Alors, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que par exemple, quand nous étions à Domanova, il y avait à l'Ermitage que j'avais près de Perpignan, bon, il y a eu un miracle qui s'est produit, mais qui s'est produit pareil à Font-Romeu, pareil, dans environ 800 endroits. C'est qu'une bête arrive à Sainte-Anne-d'Auray, etc. Une bête arrive, et puis il y a eu de la lumière, ou je ne sais pas quoi. On creuse et on découvre sous la terre une statue qui est réputée miraculeuse, que personne ne savait qu'il y avait un endroit que cet endroit était sacré, vénéré auparavant, etc. Qui datant de 5 siècles avant, ça s'est produit, bon ça s'est produit, ça s'est produit, et c'est là que sont nés tous ces grands sanctuaires dans leur enfance. À chaque fois c'est une bête qui creuse, qui fait waouh, et on découvre donc Sainte-Anne-d'Auray, on découvre Notre-Dame de Domanova, on découvre Font-Romeu, on découvre toutes ces vierges noires, et tout ça, ça s'est réalisé à peu près dans les mêmes 40 années.
J'espère que c'est réel, parce que...
Et c'est de là que sont nés tous les sanctuaires de la Vierge en France, pratiquement. Qui servent de lieu de pèlerinage depuis.
Et à Rocamadour, c'est la Vierge noire. Hein. Quelle histoire de cette Vierge noire,
Je vous le dirai après y être passé, puisque je dois y aller bientôt. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai lâché Zachée, celui qui était sur un sycomore, qui est devenu, qui s'est fait baptiser Saint Amadou, qui s'est retrouvé en France ermite, et il était là à Amadou, dans ce rocher. Voilà. Et pendant 15 siècles, son corps est resté totalement incorrompu.
Voilà.
Zachée, oui.
Oui.
Et quand il y a eu les protestants, ils ont dit ça c'est embêtant parce que les protestants estiment que la grâce sanctifiante n'existe pas. Donc le corps, il est corruptible, il doit se corrompre et puis c'est tout. Et donc un corps pas corrompu, c'est contraire à la doctrine de Luther. Et donc ils ont brûlé le corps incorrompu de Zachée, d'un Saint Amadou. C'est pour ça qu'il y a toujours son tombeau, mais il n'y a pas son corps.
Amadou, c'est Zachée, ça alors.
Mais oui, évidemment. Et etc. Oui, mais tout ça. Mais...
pour moi, ça me l'est pas.
Donc tout ça, je disais pas ça pour dire. Disais ça parce que lorsqu'il y a un phénomène miraculeux à un endroit. Eh bien, dans la même période, même génération, environ une trentaine, quarantaine d'années, il y a ce même miracle qui se produit en fait des centaines de fois ailleurs. Voilà. Et ce n'est pas le même type de miracle. Alors, par exemple, je dis ça à cause de Thérèse Neumann, Anne-Catherine Emmerich, etc. Il y a toute une foison de gens qui voyaient les détails extraordinaires, les paroles, les vêtements. Tiens, là, il y avait une pâquerette, là, il y avait je ne sais pas quoi. Avec des détails, donc de descriptions visibles, et de ce qui se passait dans les cœurs, les visages, les vêtements, le contexte, l'année, etc. Voilà. Et ça, ça s'est passé exactement à la même époque. Ça a duré comme ça. Ça a duré une trentaine, quarantaine d'années. Alors, nous, on ne retient que ceux qui ont été canonisés par l'Église, évidemment. Donc, Anne-Catherine, c'est avec Anne-Catherine. Et puis c'est pareil, alors c'était juste pour dire ça, c'est pas pour dire il y a des miracles dans l'église, ça je m'en fiche. On le sait bien. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que les champs morphogénétiques ouverts un jour dans une génération, voilà, il se passe quelque chose, un réveil à l'intérieur d'une communauté, des âmes en prière, c'est un type de sainteté ou de grâce ou de miracle. Parce qu'il se produit dans un, il se produit en même temps, dans plusieurs centaines d'autres en même temps. Ça dure, voilà. C'est comme ça. Oui, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long.
Un grand musicien qui a rencontré Dieu, là, qui est éclaté, hein? Francis Poulenc. Il a trouvé la foi à Rocamadour devant la Vierge Noire. Et à partir de là, il n'a composé que du religieux, de la musique religieuse. C'est très belle, hein.
Oui, bien sûr.
Tout ça, c'est des sources.
Chacun de ces lieux sont des sources. Okay. Voilà.
Et aussi, vous savez, je pense à Saint-Joseph, la mort qu'il a eue, pour un des côtés, entre le Christ et la Vierge. La plus belle des morts. Non ?
Sûrement, votre. Sûrement.
C'est fou, ça, hein, quand on y pense.
Eh bien, on fêtait hier la solennité de la conception de Saint-Joseph, 19 décembre. Eh bien, si vous voulez, on pourra vous l'écrire sur un bout de papier, pour que vous vous rappelez, parce que ça fait plus de 6 ans que je vous le dis, ça. Et donc, voilà. Donc, mais...
Ce n'est pas un livre de Magnificat. Hein? J'ai regardé, ça n'y était pas.
Ah, mais c'est pas officiel.
Ah, voyez.
Ce qui est officiel, c'est la solennité de sa naissance.
Hier, c'était
le 19 mars.
Oui.
Ah, voilà.
Oui.
Bon,
ça,
19 mars, 19-3. Si vous rajoutez 9 à 19-3, ça fait 19-12.
Oui.
Voilà. Et entre la conception et la naissance, il y a quoi? Eh bien, il y a la conception. Entre la conception et la naissance, 19 mars, c'est la naissance. On fête la nativité de Saint-Joseph le 19 mars. Mais pas sa conception. Il faut mettre 9 mois de plus.
Ah, d'accord.
Non ? D'une conception à la naissance, il y a 9 mois de distance.
Oui.
Voilà.
Bon, ça nous était mal, ça.
Ah, ça vous est égal. Bon, ben, là, là, n'en parlons plus. Non, mais...
Bon, vous voyez ce que je veux dire. Saint-Joseph est là, c'est tout. C'est le bonheur. Mais qu'il ait été conçu à tel moment, ça m'est égal.
Non, mais nous avons... Moi, je dis, moi, ça m'est pas du tout égal.
C'est vrai?
Il a été... Qu'il ait été conçu et qu'on le fête le 19. C'est-à-dire hier. Hier, c'était...
On le fête tous les jours.
Je comprends, mais vous, c'est pas, se passe pas la même chose quand vous concevez quelqu'un et quand vous assistez à son mariage, par exemple. Il se passe pas la même chose.
Ouais.
Donc c'est pas exactement le même.
Ouais. Transcendance.
C'est ouais, pas la même chose quand vous êtes baptisé et puis quand vous communiez, par exemple. C'est pas tout à fait la même grâce. C'est autre chose. On est conscient qu'il se passe des choses différentes,
ouais,
même.
Ouais.
Voilà. Moi, le jour où j'ai reçu mon ordination sacerdotale, j'ai pas vécu la, ça la même chose que, la, que quand j'ai été, quand je suis né. C'est deux grâces différentes. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça que je suis, moi, toujours très touché par la date du 19 décembre. Parce que c'est Saint-Joseph. Il y a 9 mois de distance avec le 19 mars.
Presque le jour de l'anniversaire.
Voilà,
on
est collé, et donc là, c'est juste avant Saint Abraham, 19 mars Saint Joseph, 20 décembre Abraham. Bon, fin d'introduction, c'était pour vous, pour nous introduire dans la maison. Vous le savez, que nous avons coutume de célébrer 3 fois la messe chaque jour, et que celle-ci, c'est la 3e messe de la journée, et que nous avons coutume de célébrer cette messe à une intention spéciale. C'est que le lieu de la conception et de la procréation a été ouvert, investi et dévasté par l'humanité depuis 8-9 ans à peu près, et que il faut qu'il y ait au moins dans le monde au moins une fois chaque jour une messe qui demande pardon pour cette transgression ultime dont parle la Sainte Écriture, l'Ancien Testament, l'Évangile et le Nouveau Testament comme étant une transgression beaucoup plus grave que le péché originel, qui pourtant a eu des conséquences énormes, puisque c'est à cause du péché originel qui a la maladie, qui a la tentation, qui a le péché, la perte de la grâce, et qui a la mort. Donc, eh bien, d'après l'Écriture, la transgression suprême a des conséquences plus dévastatrices qu'on appelle le méchant, c'est Jésus qui parle de ça, les conséquences dévastatrices qui iront jusqu'à la fin du monde, bien plus graves que celles du péché originel. Et c'est pour ça que vous savez, puisque vous nous connaissez, que nous célébrons au moins une fois par jour, parce qu'on n'imagine pas Adam et Ève, après avoir fait péché originel, après demeurer 500-800 ans sur la terre, ce qui était leur cas, sans demander pardon. Ils ont demandé pardon. Et c'est leur sainteté dans la demande de pardon qui nous a obtenu la grâce qu'il y ait dans leur descendance un rédempteur, quand même. Voilà, une rédemption. Voilà. Et c'est grâce à la prière d'Adam et Ève. Faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'on les considère comme des saints. Et là, c'est pareil, la transgression suprême. Il faut qu'il y ait au moins une messe dans le monde entier qui soit dite chaque jour pour demander pardon, pour qu'il y ait une rédemption, une libération ultime par rapport à toutes ces conséquences irréversibles de la transgression suprême. Voilà. Et c'est à cause de... Et ça, cette 3e messe, elle est là C'est celle, c'est l'intention. C'est l'intention. Nous allons célébrer ensemble la messe dans cette intention que Jésus, le Verbe de Dieu, s'immole sur l'autel pour nous arracher au pouvoir de Lucifer et à cette espèce de irréparable et invincible inversion métaphysique qui s'installe dans notre univers jusqu'à la fin du monde. D'après ce que Jésus nous a expliqué, bien sûr. Voilà. Et voilà, c'est. Nous avons fait ça depuis avril 2005, tous les jours, à la demande des autorités romaines les plus élevées. Et donc, moi personnellement, j'essaie de rester fidèle à cette mission. Voilà. Donc, je vous remercie de participer quand ça vous arrive de pouvoir y participer. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du buisson. Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets des chasseurs et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole aux branches, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant, et le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À clé de David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne ferma. Tu fermes et nul n'ouvrira. Tu arraches les captifs aux ténèbres. Viens, Seigneur Jésus, viens nous sauver. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à la célébration du sacrifice divin. Le Verbe éternel de Dieu, sur notre terre, s'immole pour nous arracher au pouvoir de Lucifer. Et à toutes nos fautes, reconnaissons devant le Père, son Père, notre Père, que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Indulgentia, absolutione, et remissionem peccata cum nostro. Tribuat nobis omnipotens et miséricorde dominus. Amen. Kyrie. Conduis-nous par le mérite de sa passion et de sa croix, que ce corps-là tout pur, sainte et glorieuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, jusqu'à la gloire et avec l'aide de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem, Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, au jour d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Oh, que l'aide David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Oh, que l'aide David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Berger d'Israël, écho, resplendis au-dessus des kéroubis, réveille ta faïence et viens nous sauver. Oh, que l'aide David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde-moi. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Oh, que l'aide David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Du Seigneur, alléluia. Que tout m'advienne selon ta volonté. Alléluia. 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 Le Seigneur s'est avec vous. Et avec vous, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une région montagneuse de la Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Alors, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit Et elle cria d'une voix très forte, tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles, béni, d'où vient-il? D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Parce que lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton évangile, Seigneur, répande sa rosée toute divine, sa lumière vivifiante, son parfum céleste sur toute la surface de la terre, qu'il pénètre en toute chair assoiffée, assoiffée de sainteté et de vie éternelle, qu'il puisse voir s'ouvrir devant leurs yeux, dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'en haut, libres de toute entrave, lavées de toute faute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, alléluia. 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 Louange à toi, devenu cher, on l'a vu ce matin déjà. C'est la seule fois de l'année où on lit le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 10. Et c'est dans ce... Je me rappelle, une fois j'étais dans un week-end de prière, etc. C'était la région parisienne. Et il y avait le frère, il était frère à ce moment-là, il était un petit frère, il s'appelait le frère Daniel Ange, et il avait posé la question à tous ceux qui étaient là. On va voir si vous, amen, alléluia, si vous... Est-ce que tout le monde ici, très très branché, une culture extraordinaire, Jésus, tout le monde, est-ce que vous savez quelle est là? On va voir combien d'entre vous savent quelle est la première parole que Jésus a prononcée en venant sur la terre. La première fois que Jésus a prononcé un son, une parole, c'est quoi? Alors, il nous a fait, sous sur la braise, quoi. Et on a constaté que personne ne savait. Quelle était la première... ça m'arrive souvent de reprendre ce truc, parce qu'effectivement, c'est vrai, il faut démarrer pour faire renaître la foi, il faut faire renaître en l'évidence qu'on se trouve face à des gens qui n'ont pas la foi, puisqu'ils ne savent même pas la première parole de Jésus quand il est venu sur la terre. Ils ne connaissent même pas ça, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi, puisque ça ne les a même pas intéressés de savoir quelle est la première parole que Jésus a prononcée sur la terre. Et que souvent, on pose aussi la question, quelle est la dernière parole? Les gens ne savent pas plus. Quand on fait une retraite, il y a 800 personnes, il n'y a pas un seul qui sait. Alors, ils ont des hypothèses. Ils disent, oui, j'ai soif. À chaque fois, c'est faux. C'est pas la dernière parole. Alors, la première parole, c'est le chapitre hébreu, la première fois. C'est Hébreux chapitre 10, verset 10. J'espère que je ne me trompe pas. C'est bien ça, n'est-ce pas? 10, 10, c'est ça. Et cette première parole, c'est. Et c'est le jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est, il l'a prononcé au 14 du mois de Nissan, dans le calendrier d'Israël. Et. C'est à peu près le 14 avril. Et. Il a été conçu. C'est avant Noël. Avant Noël. Lorsque le Christ, dit l'Épître aux Hébreux, est apparu dans ce monde, il a dit « Shemem » en hébreu, « Shemem »,« Me voici ah. »,« Me voici ». Et c'est dans les 613 préceptes, toute mère, tout père en Israël doit, depuis Moïse, c'est une loi absolue, faire en sorte qu'un nourrisson puisse dire « me voici » au moment de sa conception. Et quand il naît, après, à la naissance, 9 mois après, le souci d'une mère d'Israël, hein, depuis Moïse, hein, et puis encore aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le nourrisson, la première son qu'il produit, c'est pas « Alléluia » ou « Papa, Papa, Maman, Maman, Maman ». Nous on fait ça, on ramène tout à nous, vous comprenez. Donc l'Israël, non, ramène tout à Dieu, donc me voici, face à la volonté de Dieu, me voici. Je m'aime, on leur fait comme ça. Alors, j'aime bien, moi, quand j'ai un petit nourrisson, le lui faire, puisque je sais d'avance que la maman ne l'a pas fait. Alors, même s'il a 3 ans, je fais quand il a 3 ans, sinon quand il a 0 ou 1 mois, 2 mois. Alors, il faut bien regarder. En fait, c'est les sons, paradoxalement, qui paraissent difficiles, et puis en fait, ils sont faciles pour un nourrisson. Parce qu'il regarde bien la lèvre, et en fait... Alors, si je fais plus fort, mais c'est pas plus fort, c'est... C'est pas ça, hein, c'est... C'est un souffle. Et puis tu fais le baiser comme ça, le petit baiser tout petit. Et la première parole qu'un enfant doit apprendre, même en le chantant ensuite, quand il va avoir 1 ou 2 ans, c'est dire le chemin d'Israël. Écoute Israël, chemin d'Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est la première parole, ça c'est cette première parole, aux Épîtres aux Hébreux, saint Paul dit, évidemment, que c'est la première parole que Jésus a prononcée en venant dans sa conception. Dans sa conception, son âme a prononcé, dans le génome originel, 9 mois avant sa naissance, cette parole. Et nous, dans l'Évangile, on a un truc extraordinaire, c'est que quand Marie, l'ange Gabriel lui a dit tout ça, elle a répondu, en araméen, en hébreu, elle a répondu à l'ange, « Je me voici. » Nous on dit « fiat », hein, on dit « fiat », « fiat miki secundum verbuntum ». Elle n'a pas dit en latin. Hein. Elle n'a pas dit « fiat », elle n'a pas dit « fiat », elle a dit « Je m'aime », elle a dit « me voici » pour faire ta volonté. Et en disant « me voici », tout de suite elle a été assumée à l'intérieur de Dieu. Dieu a pénétré son chemin, le Verbe de Dieu a engendré éternellement un respectus de sa vision incréée éternelle dans le chemin de Marie, et il s'est incarné, il a prononcé le même chemin en même temps qu'elle à sa conception. Donc la conception de Marie, la conception, et quand Jésus est sur la croix, 14 mois de Nissan, 36 ans plus tard, eh bien, il dit au Père, me voici pour faire ta volonté, puisqu'il est, il dit le même me voici. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il dit le même mot, et qu'il est dans le même amour et le même degré d'intensité d'amour, 9 mois avant la naissance, et au moment où son union hypostatique se déchire. Et cette note là ici, comme un diapason, tac, qui donne la note de la symphonie, était donnée par Marie quand elle a dit ce mot. C'est quand même extraordinaire. Et c'est de l'hébreu, vous me direz, mais oui, c'est plus que de l'hébreu. C'est lorsque je suis le plus petit que la fécondité la plus haute d'éternité se prononce. et il se multiplie deux fois même dans une fécondité qui va au-delà de la gloire de la résurrection. C'est ça que ça veut dire, ce même vacil. Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est le 20 décembre, chaque année, le 20 décembre, que cette parole-là est donnée dans la messe. Cette espèce de conception, ce moment de la conception de Marie, ce moment de la conception de Jésus, ce moment, au fond, et nous on le sait, c'est le moment de la conception aussi de Joseph, il y a trois conceptions qui ont exprimé de manière parfaite ce chemin-là. Il n'y en a que trois dans toute l'histoire de l'humanité. Et de fait, de le répéter dans l'unité indivisible des trois, va faire précisément l'ouverture des temps. Et c'est grâce au fait qu'ils étaient trois à le faire ensemble qu'il va y avoir l'ouverture des temps, c'est-à-dire la possibilité de l'union hypostatique déchirée de Jésus. Voilà. Et c'est extraordinaire, moi, je trouve que ce soit... Et là, et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile, encore une fois, Jésus vient nous dire ce même, et aussitôt le Saint-Esprit, dans le texte grec, propulse, c'est un truc très violent, c'est un truc, à une vitesse extraordinaire, complètement incroyable, Marie, tout de suite de Nazareth, et la précipite là-bas. Elle est précipitée dans la visitation. Et Saint-Esprit brûle tout, complètement. Et Joseph, Marie et Jésus arrivent dans un embryon. Jean-Baptiste. Et dans un embryon, parce que dans cet embryon-là, qui en était à son 153e jour, vous savez que 153, ça signifie le corps mystique de Jésus. Vivant, c'est-à-dire l'Église, il y a 153 poissons dans la barque de Saint-Pierre. Ça exprime le corps mystique de Jésus. Donc quand Saint Jean-Baptiste, par la grâce qu'il a reçue dès le départ, 153 jours avant, elle l'a fait développer dans le désir du corps mystique de Jésus vivant entier, dans son sacré cœur. Et donc dès que Jésus s'incarne, il veut pénétrer à l'intérieur du cœur de Saint Jean-Baptiste, parce que dans l'embryon de Jésus, vous le savez bien, son cœur ne bat pas encore, il va falloir attendre 19 jours. Donc aussitôt que Jésus s'incarne, il a besoin de battre son chemin dans le corps mystique de l'Église. Et c'est là qu'est né le Sacré-Cœur, c'est le jour de la visitation, la conception du Sacré-Cœur. Et c'est pour dire qu'à ce moment-là, il y a eu la première Pentecôte, Saint-Esprit, qui s'est saisi du monde embryonnaire de la nature humaine tout entière et qui a pu envahir le monde embryonnaire de Jésus avant qu'il y ait un cœur, avant qu'il y ait des cellules cardiaques dans le cœur de Jésus. Voilà, parce que c'est comme ça, Jésus il a voulu qu'il y ait des cœurs qui battent au même rythme que son amour incréé de Verbe de Dieu avant que ça ne puisse se faire dans son propre cœur à lui. Et donc il a consacré le ministère de l'Église comme étant la grande préparation nécessaire avant qu'il n'en fasse la manifestation universelle, efficace, partout. Voilà, et bien c'est les deux passages quoi, que l'Église donne pour le 20 décembre, c'est aujourd'hui. Alléluia.
C'est quelque chose sur l'anniversaire, hein, je vous rappelle.
Oh, moi, comme ça, c'est un épiphénomène.
C'est plus important, n'oublions pas. Non, bon anniversaire, mon chéri.
C'est autre chose.
C'est la même.
Il y a aussi des formes de pain qui descendent de ces arbres. Mais c'est moins important. C'est important, c'est ça.
Pas pour moi.
Et oui, on fait le.
Oui.
Et c'est pour ça que je trouve, moi, personnellement, qu'il y a un jour dans l'année où on demande pardon pour cette espèce de dévastation qui se passe dans notre nature humaine à l'instant de la conception, que ça se fasse en fonction des textes, vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop long. Ce ne sera pas trop long, vous inquiétez pas. Quelquefois, il y a des problèmes de... patience, mais ça, c'est autre chose. Alors, que ça se passe le 20 décembre, je trouve ça incroyable que qu'il y ait cette demande de pardon, parce que c'est ce lieu-là, c'est ce lieu sacré, ce lieu originel, ce lieu ultime, ce lieu transcendant, ce lieu où l'éternité se mêle à l'instant présent, où l'instant présent se mêle à l'éternité, ce lieu où l'un se mêle au multiple, l'indivisible, à la pluralité, la fécondité éternelle de toutes les au-delà de la gloire et de la grâce de Dieu, ce lieu où se mélange l'acte et toute puissance à la perfection de la charité, ce lieu où se mêle la paternité incrée de Dieu et la paternité vivante, et ce naturel ultime de que Dieu imprime dans la terre. C'est ce lieu-là, quoi. C'est ce lieu-là qui est dévasté. Faut pas faire une idée fixe sur le planage, c'est d'accord, mais c'est ce lieu-là qui est dévasté. Et c'est cela, et comme je peux vous le dire, je peux vous le rappeler, c'est que vous le savez de toute façon, mais ça n'a aucun intérêt, sauf d'arriver à dévaster vraiment la relation morphogénétique universellement dans tous les êtres humains du passé, du présent et de l'avenir, tout ce lien qu'il y a avec la paternité vivante de Dieu au moment où nous avons dit notre oui spirituel, à la fois dans le temps et à la fois dans le livre de la vie, en disant « Je m'aime, me voici pour faire ta volonté ». C'est ce lieu-là qui est dévasté, pour que ce soit brisé dans tous les êtres humains. Et cette méchomisation, cette méchomisation de notre union palpitante, hein, c'est vrai, vibrante, comme disait le pape Saint Léon le Grand. Non, c'était pas comme disait le pape Jean-Paul II avant. Dans tous les hommes, c'est ça leur but, c'est pas de faire des clones. Les clones, ils ont... C'est évidemment pas de faire des clones qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est de briser ça, dévaster ça, de manière que les êtres humains, tous sans exception, se trouvent un petit peu comme déconnectés de ce oui originel qui les met en adaptation au cinquième saut de l'Apocalypse, au sixième saut de l'Apocalypse et au septième saut de l'Apocalypse. C'est le but de Lucifer. Et voilà, et c'est pour ça que tout ça, c'est des nuances qui disent voilà, on est mobilisé pour servir, et on remercie, on rend grâce à Dieu parce qu'il nous a choisis. Pour demander pardon pour ça. Et qu'il y ait un tout petit reste, comme dans le livre de Michel, tu viens de le lire, un tout petit reste de rien du tout, qui demande pardon pour ça. Il faut que dans l'humanité, il y en ait 3 ou 4. Il faut qu'il y en ait. Et puis de temps en temps, quelqu'un qui s'agrège au TGV, et puis qui lâche tout de suite après, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire au-dessus. D'animaux à faire brouter, vous comprenez, c'est pour moi. Mais c'est ça, donc il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait. Et donc, il le faut. Et donc, et nous avons été choisis pour prendre ça dans notre cœur, pour être les ministres de cette ouverture des temps, pour être le ministre de cette libération in extremis des mains de Lucifer, de la nature humaine tout entière. C'était pas un sermon, c'était un rappel pour l'intention de la messe. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, Fils de Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. C'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.